Retour pour ce débat sur la première radio des Alpes du Sud. Je vous rappelle que pour ce dernier débat avant les législatives, nous sommes sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes avec nos deux candidats qui s'affrontent ce soir. Joël Giraud pour La République En Marche et Arnaud Murgia, candidat divers droite. Et on va parler économie et fiscalité. Vous en parliez en tout début d'intervention tout à l'heure. Arnaud Murgia, vous avez parlé de la CSG, mais on va en parler maintenant puisque La République En Marche propose cette hausse de la CSG. Clairement, Joël Giraud, qui paiera? Et combien paiera celui qui doit payer?
Alors le taux qui a été annoncé, le taux de 1,7%, le taux qui a été annoncé relatif à des revenus qui sont supérieurs ou égaux à... Alors il y a eu deux versions, une version à 1200, une version à 1400 euros. Et comme je l'ai dit plusieurs fois sur votre antenne, et en tant que membre que j'espère revenir de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, il y aura un débat sur la notion de progressivité du taux, parce qu'un taux moyen, à mon avis, ne doit pas s'appliquer de la même façon.
Progressivité quand on a... sur quelle base hein?
Progressivité sur la base de, quand on a 1 200 euros par mois, un prélèvement de 1,7 est important. Lorsqu'on a 5 000 euros par mois, le prélèvement de 1,5 l'est beaucoup moins. Donc l'idée, c'est de pouvoir gérer un taux moyen à 1,7 avec un écart qui sera un écart allant d'un taux plus faible pour les bas revenus et d'un taux plus haut pour les hauts revenus. Voilà.
Avec l'idée que la compensation sera faite avec le...
L'idée sera faite avec les hauts revenus, oui.
Oui, non. La compensation. Bon,
mais la compensation
de la CSG.
Alors, la compensation
de la hausse
de CSG va être aussi... Non, pas que la taxe d'habitation, d'ailleurs, mais avec un certain nombre de mesures qui redonnent du pouvoir d'achat. Je pense en particulier aux baisses de charges sur les salariés, parce que ça aussi, ça donne du pouvoir d'achat. Mais il y a également la compensation de la taxe d'habitation. Alors, c'est quoi la compensation de la taxe d'habitation, au lieu de faire peur à tous les maires? À l'heure actuelle, il y a un seuil de revenus en dessous duquel vous ne payez pas la taxe d'habitation. Bon. Alors, il y a un problème, c'est que le remboursement par l'État... qui est automatique. Il est automatique, il est entre guillemets dynamique, c'est-à-dire que lorsque vous créez par exemple un lotissement et qu'il y a de nouveaux assujettis qui ne sont plus redevables de cette taxe d'habitation, l'État compense sur les nouveaux assujettis également. Par contre, la référence est une référence trop ancienne. C'est-à-dire que clairement, on a bloqué les compteurs il y a trop longtemps. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les compteurs soient bloqués non plus à cette époque-là, mais en 2016, qui est quand même une référence. Pas en 2017, parce que comme les choses avaient été annoncées, il y a des gens qui ont modifié leur taux en se disant bon, on va peut-être anticiper en modifiant les taux. Donc bon, faut quand même pas exagérer. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on monte progressivement jusqu'à 20 000 euros par part, c'est-à-dire que grosso modo, c'est 80% des gens qui sont exonérés de la taxe d'habitation, qui est très lourde et très injuste, parce que pour des raisons historique, elle est importante dans certaines communes. Ici à Briançon, par exemple, vu ce qui s'est passé en termes de départ de l'armée, en termes de départ d'un certain nombre d'institutions, le taux de taxe d'habitation a flambé. Bon, je ne parlerai pas d'autres remontées mécaniques, mais la taxe d'habitation est quand même assez élevée aussi.
Rapidement pour cette argumentation.
L'idée générale, elle est là. Compensation intégrale des communes sur la base 2016. Et si les communes, ensuite, veulent faire évoluer leur taux, ça n'a pas fait l'objet d'un arbitrage, mais bon, j'ai déjà quelques idées là-dessus. En dessous de la moyenne de la strate, l'État compense et les communes peuvent augmenter. En dessus de la moyenne de la strate, il faut éviter que ce soit inflationniste et qu'on ait de plus en plus de taxes d'habitation.
Merci.
Donc pas de compensation par l'État.
Merci Joël Giraud. Arnaud Murgia, si je m'appuie quand même sur l'un des programmes que vous défendiez jusqu'à peu de temps, celui des Républicains, lors de la campagne de François Fillon, il y avait l'idée de la hausse de la TVA. Ça a été évacué pour les législatives. Aujourd'hui, on ne voit plus de hausse nulle part d'ailleurs.
Alors, je voudrais vous répondre et vous répondre globalement parce que d'où ça vient, si je comprends bien, le projet de hausse de la CSG. J'ose imaginer que M. Macron s'est pas réveillé un matin en se disant « je vais augmenter les impôts des gens, c'est sympa ». Le sujet, c'est que quand vous avez un programme économique, fiscal... qui prévoit un certain nombre de baisses de charges, la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%, les heures supplémentaires défiscalisées de retour, ça coûte quand même très cher, et le redressement, la hausse à nouveau du plafond du quotient familial, qui sont accessoirement à peu près tout l'inverse de ce qui a été fait pendant les 5 dernières années avec François Hollande. Quand vous avez ce programme-là, il faut bien le financer. Moi, je suis favorable à ce programme-là, en l'occurrence, c'était à peu près le nôtre. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'en plus de ça, vous expliquez que ce que vous allez prendre sur la CSG, vous le redonnez mais de l'autre main, avec la taxe d'habitation. Donc finalement, ça n'a plus vraiment d'effet, sauf que la taxe d'habitation, ça va coûter aussi à l'État. Donc je me demande si ce programme est réellement finançable, et je dis quelque chose de très simple. La CSG, cette hausse-là me semble assez injuste, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a été multipliée par 6 en 20 ans. La deuxième, c'est que c'est toujours les mêmes qui payent. Les salariés du privé, les retraités, les indépendants, les artisans, et qui me semble dommage de toujours leur faire peser le coût des politiques mises en place. Sur la taxe d'habitation, un dernier mot. Moi, j'ai qu'un seul doute. Je dis vraiment pourquoi pas sur le principe, mais je dis est-ce que on va permettre aux communes de garder le dynamisme des bases, c'est-à-dire l'augmentation de leurs recettes. On nous explique aujourd'hui qu'on va partir sur une compensation à l'année N et qu'il y aura une clause de revoyure 3 ans après. On sait comment ça se passe. Les clauses de revoyure, on les revoit jamais. Donc, je suis un peu dubitatif là-dessus, mais en tout cas, sur cette partie du programme économique, moi, la CSG, c'est non. Le reste, pourquoi pas, parce que les baisses de charges et une politique de libération
des
entreprises.
C'est quoi les recettes chez vous ?
Pardon ?
Elles viennent d'où, les recettes chez
vous ? C'est un plan d'économie qui est beaucoup plus fort sur les charges de l'État.
D'accord. Mais de quelle nature ?
Ben de quelle nature? Vous savez très bien de quelle nature. Ça veut dire suppression du nombre de fonctionnaires. Et ça veut dire
qui pourrait impacter
continuation d'une politique telle que celle qui avait été menée avec la RGPP, bien entendu.
Donc, ce qui sous-entend donc baisse des fonctionnaires, ça peut impacter des territoires comme les nôtres où on craint cette baisse des fonctionnaires. Ce qui veut dire aussi qu'on demandera plus d'économies aux collectivités.
Mais ça, c'est un mauvais et un faux débat. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vous réponds très simplement. J'ai le sentiment en tout cas que dans nos territoires de montagne, on a l'impression qu'il y a 10 ans, les services publics étaient en bien meilleur état. Je me trompe ou pas ? Bon, il se trouve qu'il y a 10 ans, il y avait 500 000 fonctionnaires en moins dans ce pays. Donc, ça ne veut pas dire forcément la même chose. La réalité, c'est que on a, notamment à travers, je ne voudrais pas rentrer dans du technique, à travers la LOLF, etc., on a surmultiplié les postes en administration centrale et en direction départementale qui font qu'on a des gens dans l'administration de l'État qui passent plus leur temps à contrôler, à manager et à évaluer, et qu'il y a de moins en moins de gens à évaluer, à contrôler et à manager. C'est une réforme de l'État essentielle qui devrait être mise en place dans les années à venir.
Pardonnez-moi, mais dans les directions départementales de l'État comme les Hautes-Alpes, où on a besoin d'ingénierie pour justement les petites communes,
je ne vous dis pas qu'on
n'en
a pas besoin.
Il n'y a pas grand monde. Il n'y a plus grand monde.
Je ne vous dis pas qu'on n'en a pas besoin. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que nous arrivons à 54,6% par rapport à la richesse nationale de dépenses publiques. Ça n'est juste plus tenable pour la France. Donc soit on continue comme on l'a fait depuis 30 ans à faire des chèques en blanc et à garder un État qui grossit toujours de plus en plus, soit on réforme enfin vraiment cet État.
Mais donc on en demande plus aux collectivités. J'aimerais revenir aussi sur cette idée, sur les collectivités. On en demande plus d'efforts aux collectivités, sachant que la République En Marche demande aussi des efforts sur le quinquennat. Vous en seriez à demander aussi des efforts
supplémentaires ? Moi, je suis favorable à ce que les efforts demandés, déjà un, ne soient pas uniformes. C'est-à-dire qu'une collectivité qui fait des économies, il faut la pénaliser moins. Deux, il se trouve que c'est quand même la majorité qui était au gouvernement pendant les 5 ans à venir, qui a fait peser la baisse des dotations comme elle l'a fait peser, et en l'occurrence de manière uniforme. Parce que quand vous baissez de 10% la dotation d'une commune qui a 1 million d'euros de dotation de l'État, ça n'a pas exactement le même impact que pour une commune qui en a 70 ou 80 000 en termes d'impact réel. Donc, si vous voulez, il faut là-dessus avoir un regard pragmatique, et j'ajoute à cela que aujourd'hui, un des vrais problèmes, à mon sens, des collectivités territoriales, c'est qu'elles n'ont pas la maîtrise de leurs dépenses de personnel. Ce qui veut dire que quand vous prenez une petite structure comme le conseil départemental, c'est bien beau de dire on va faire des économies, on remplace pas les départs en retraite. Bon, si vous avez le géomètre expert qui part en retraite, vous le remplacez pas par un cuisinier des collèges. Ce qui veut dire qu'il faudra peut-être réfléchir à terme à permettre aux collectivités territoriales, en l'occurrence à la fonction publique territoriale, d'avoir par exemple des contrats de mission comme dans l'armée, 8 ans, 10 ans, qui permettent de garantir l'indépendance et la neutralité du service public, mais qui permettent aussi à un président d'exécutif local d'avoir la maîtrise de ses charges salariales. J'ajoute à cela que quand on a fait les transferts de compétences comme ils ont été faits, et que vous demandez à une petite commune qui a 2 secrétaires de mairie de transférer sa compétence urbanisme à la communauté de communes, vous imaginez bien qu'elle ne peut pas lui couper un bras et un pied pour la transférer transférés à la communauté de communes. Donc, inévitablement, c'est toujours des doublons, c'est toujours des emplois supplémentaires. Je dis que ce qui a été amené par cette loi NOTRe, quand on transfère une collectivité à une autre,
il y a des commissions locales d'évaluation des charges qui font qu'il y a des compensations qui se font et qui font qu'effectivement, ça n'est pas un truc créateur d'une inflation de salariés. Il y a des compensations qui se font pour la part que où des fonctionnaires, par exemple, communaux, travaillent pour l'intercommunalité ou réciproquement.
Vous savez comme moi qu'on a créé avec les intercommunalités la loi NOTRe que vous avez votée, qui écrase les mairies, en réalité, en les dépossédant.
Donc, veuillez me remercier, je l'ai voté pour sauver les départements. Sans ça, vous ne seriez même pas conseiller départemental.
Oh, mais rassurez-vous.
Dites-moi merci quand même.
Je ne sais pas si je dois vous dire merci, parce qu'à travers cela, mine de rien, vous faites un vote de sympathie qui permet d'aller expliquer au canton de Saint-Firmin, au canton de La Grave, qu'effectivement, vous vous êtes opposé à la suppression de leur canton, parce qu'effectivement, l'effet de ce texte, c'est ni plus ni moins d'avoir plus de conseillers départementaux en ville que d'en avoir dans les zones rurales. Mais au final, excusez-moi, il est quand même mis en œuvre. Donc, à nouveau, on repart dans le « j'ai voté contre, mais ils l'ont fait quand même, c'est pas ma faute ».
Mais alors, attendez,
ça n'a rien à voir.
J'estime que quand on a mis en œuvre cette politique...
Mon groupe a demandé, parce qu'on devait supprimer les conseils généraux, enfin, les conseils départementaux, mon groupe a dit qu'il ne voterait jamais la loi NOTRe si on ne les gardait pas dans les zones rurales. Ils ont été conservés dans les zones rurales parce qu'il faut un échelon de proximité.
Vous savez très bien que c'est une
tout va bien.
Mais vous savez très bien que c'est une reculade nationale. Vous voulez refaire le Alors là, vraiment, très franchement, vous prenez les gens quand même. Vous savez très bien que le gouvernement s'était annoncé sur la suppression de tous les départements, qu'il y a eu une fronde de l'ensemble des élus de droite comme de gauche, et que Manuel Valls s'est dit on va peut-être pas faire ça à un mandat cantonal.
Il y a peut-être des groupes politiques plus courageux.
Et donc, oui, mais ça veut dire qu'au final, qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Ça veut dire que...
Bah, rassurez-vous,
ça veut dire que
nous avons prévu de supprimer les départements là où il y a une métropole.
Voilà, donc c'est encore à nouveau. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on n'a rien fait, mais par contre, tout va changer dans les 5 dernières années. Regardez l'impact de la loi NOTRe. On a fait des super énormes régions qui ont toutes les compétences. Un maire, aujourd'hui, qui veut que sa ligne de bus soit changée, il faut qu'il s'adresse à la région, à Marseille.
Mais alors, c'est quoi la bonne
échelon ? On a fait en sorte que les maires... Mais moi, mon choix, c'est de redonner des compétences...
Non, le bon échelon,
le bon échelon, c'est inévitablement, dans les zones rurales, la commune et le département. Et donc, je voudrais qu'on arrête avec les jardins à la française.
On aurait une vie, pardon, c'est-à-dire que... Pardon, Berger, on aurait une France à deux vitesses avec la loi NOTRe, c'est-à-dire les territoires ruraux, communes, départements.
Aujourd'hui, on l'a. Un maire pourra bientôt plus avoir le contrôle de son eau. C'est ça la loi NOTRe. C'est qu'aujourd'hui, le département, on lui a supprimé tellement de compétences qu'il est devenu un guichet social. On a perdu toute la proximité avec cette loi NOTRe. Et vous le savez très bien, et je sais très bien qu'en plus, au fond, vous êtes d'accord avec cela. Et je dis, arrêtons avec cette France, ce jardin à la française. C'est-à-dire, tout doit être pareil partout. Je dis, les mairies, les départements, dans les zones de montagne, dans les zones rurales, et dans les grandes zones urbaines, pourquoi pas, effectivement, suppression des départements. Bon passage aux métropoles.
Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on
va vous laisser la parole.
Je ne dis pas de contre-vérité. Par exemple, sur l'eau, qui est un vrai sujet. L'eau est quelque chose qui, notamment dans les zones de montagne, pose problème. Il pose problème à double titre. D'abord, parce que la ressource en eau doit être partagée. Il y a des communes qui ont une ressource en eau qui est pratiquement inexistante. Je pense à Briançon, qui a un problème sur ce plan de la ressource en eau. Et il y a d'autres communes qui ont de l'eau abondante. Donc, essayer de mutualiser les choses pour que les choses soient plus égalitaires est important. C'est dans la loi NOTRe. Cela étant, les textes n'ont pas été abrogés qui permettent de déléguer à une commune tout simplement le fonctionnement du service de l'eau à cette commune. Ce qui veut dire que on peut avoir envie d'une mutualisation de la ressource et des investissements pour que les gens ne se retrouvent pas dans une situation qui est une situation de « moi j'ai de l'eau et toi tu vas te faire voir parce qu'à côté tu n'en as pas », mais en même temps de gestion de proximité qui évite en plus... qui évite la vente globale par délégation de services publics aux grands groupes privés de justement cette ressource en eau. C'est un texte qui existe.
Mais oui, mais c'est exactement la même chose que ce que vous avez fait sur la question touristique. C'est-à-dire que vous êtes venu nous expliquer qu'il fallait absolument intercommunaliser le tourisme. Et puis 6 mois après, on s'est dit, ah ben finalement, c'était pas une bonne idée, donc on va créer des spécifications. Il se trouve que je pense que c'est pas une bonne idée. Mais en l'occurrence, ça veut dire qu'à chaque fois, on fait un texte, et puis derrière, on fait un petit sparadrap en disant, allez, on crée une exception parce que c'était pas la bonne solution. Si vous appelez ça une politique cohérente, peut-être, moi je trouve pas.
Là-dessus, on a compris que vous aviez des vrais désaccords. Et on va poursuivre avec une question de Johan Gavoil.
On va revenir au thème de départ, qui était la fiscalité.
Oui, on s'est un peu éloigné avec la loi NOTRe, mais on devait en parler. Voilà. Maintenant, c'est fait. On revient à la fiscalité, effectivement.
Question à tous les deux. Faut-il poursuivre avec les lois de défiscalisation pour permettre les constructions de lits chauds dans les stations de sport d'hiver, notamment ?
Arnaud Murgia, pour la première réponse.
Non, vas-y. Oui, absolument. J'en suis convaincu. Je pense qu'on a des mesures qui peuvent aider. Je propose par exemple qu'on aille sur un abattement qui pourrait être de 15 à 20% sur les droits de succession, qui pourrait nous permettre, par exemple, quelqu'un qui hérite d'un bien, de le rénover, de le remettre sur le marché locatif, par exemple, pour 5 ans. Ce serait une vraie incitation pour encourager cela. On pourrait aussi éventuellement imaginer que les maires puissent procéder à une exonération totale de taxes foncières sur une période donnée, parce qu'on sait aussi que souvent il y a des situations locales et que le maire est capable de les régler, d'encourager quelqu'un à dire tiens, dans cette copropriété il y a quelque chose à faire. Mais oui, inévitablement ces dispositifs fiscaux seront essentiels. Il faudra ne pas oublier qu'on a besoin aussi là-dessus de la collectivité publique, c'est-à-dire en l'occurrence de la Caisse des dépôts et des consignations, pour amener de la trésorerie, de la masse financière dans ce qu'on appelle les foncières qui sont amenées à réhabiliter et à rénover, parce que les objectifs de réhabilitation sont de la même manière des débats qu'on a depuis des années, et on s'aperçoit bien que le problème, c'est qui paye. Alors, ça fonctionne quand éventuellement la Compagnie des Alpes amène de la trésorerie et fait à 100% une résidence à la salle Les Alpes, et on s'aperçoit que derrière, ça est censé à faire école, et que ça ne le fait pas. Ce sera inévitablement des grands objectifs, parce que le fond du sujet, c'est quoi ? C'est que l'espace dans nos stations n'est pas un espace infini, et que plus vous avez une qualité du logement, notamment dans les centres-stations qui sont par nature les plus anciens, qui est mauvaise, plus vous construisez loin, plus vous avez des problèmes de parking, plus vous avez des problèmes de transport, etc. etc.
Merci Arnaud.
Et d'attractivité, bien entendu, merci de la station elle-même.
Même question pour Joël Giraud.
Même question, j'y ai un petit peu répondu tout à l'heure en parlant de la transition énergétique, parce que c'est la preuve qu'on peut faire une politique relative au lit chaud et en même temps lutter contre le réchauffement climatique, si vous me permettez ce jeu de mots. C'est exactement ce que nous avons voulu dans la loi Montagne avec le dispositif qui s'appelle le dispositif Sensi-Bouvard. Je le disais tout à l'heure, si on veut avoir un effet levier intéressant, il faut quand même avoir des politiques qui sont des politiques un peu de masse. Aujourd'hui, on a tout un tas de résidences de tourisme qui sont des résidences de tourisme qui ont été construites sur une bulle fiscale, et cette bulle fiscale, elle a fait un peu pchit parce que ces bâtiments n'ont pas été conçus dans de bonnes conditions sur le plan énergétique, et nous avons des bâtiments qui deviennent des véritables friches à l'heure actuelle dans les stations, outre le fait qu'ils ne sont pas toujours très bien conçus sur le plan architectural parce qu'on a fait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, le vrai enjeu dans des régions comme les nôtres, c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire faire en sorte que le dispositif fiscal Sensi-Bouvard ne s'applique plus à la création de lits nouveaux, mais à la réhabilitation de lits qui sont devenus des lits froids de fait, puisque ces lits sont froids dans la mesure où c'est plus possible de le louer, puisque les charges sont telles sur ces lits que de toute façon, on les louerait soit à perte, soit à des prix qui sont complètement rédhibitoires par rapport au marché. Donc il faut des effets de masse, et je le disais tout à l'heure, ce qui a été mis en place, effectivement, les foncières avec l'aide de la Caisse des dépôts, mais en lien avec des fédérations locales, notamment le bâtiment et les travaux publics, qui permet d'avoir une espèce de package, une force, une ingénierie au service à la fois du territoire, des entreprises et de l'écologie, c'est demain, je crois, l'avenir pour faire en sorte que massivement nous ayons des lits froids qui se réchauffent grâce à la lutte contre le réchauffement climatique.
Merci, Joël Giraud. Voilà, juste le temps de faire une courte pause. Et on se retrouve juste après. On pourra pouvoir poursuivre ce débat avec d'autres questions qui arrivent juste après la pause. Entre ce soir Joël Giraud, le candidat de La République En Marche, et Arnaud Murgia, candidat d'hiver droite sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes. À tout de suite.